Et le journal de Raphaël Solvera.
Bonsoir. Les infirmières indépendantes du Jura clament leur indignation. Elles se réuniront demain matin en marge de la séance du Parlement jurassien, consacrée notamment au budget 2025. Dans leur ligne de mire, la potentielle hausse de la participation des patients au coût des soins à domicile. Un grand pas vers l'interdiction du Hamas et du Hezbollah en Suisse. Le Conseil des États a très nettement adopté une loi en ce sens. Aujourd'hui, le Conseil national se penchera sur la question demain. Il patinera sous le chandail de la Vouivre 2 années supplémentaires. Le HC Ajoie annonce aujourd'hui la prolongation du contrat d'Anthony Honka jusqu'en 2027. Le défenseur finlandais s'est imposé comme le maillon fort de l'arrière-garde jurassienne. Météo, il y aura peu d'éclaircies demain, voire pas du tout. Les nuages seront tenaces jusqu'à 1400 mètres d'altitude, mais le temps restera sec. Température maximale 3 degrés en plaine, 0 dans les franches montagnes. L'heure de la mobilisation pour les infirmières indépendantes du Jura. Elles tirent à boulet rouge sur la potentielle hausse de la participation des patients au coût des soins à domicile, soumise au Parlement jurassien demain dans le cadre du budget cantonal 2025. La contribution pourrait passer de 5 francs par jour à 15,35 francs. Les infirmières indépendantes évoquent une augmentation insupportable qui conduira des patients à renoncer aux soins et à une dégradation de l'état de santé d'une partie de la population. Leur représentante, Mélanie De Giacometti.
Ça pèse sur les soignants et puis les institutions de soins du canton d'expliquer cette mesure aux gens. J'en ai déjà touché un mot à une patiente ce matin qui était hors d'elle, qui me disait « mais c'est honteux, mais vous vous imaginez, mais c'est pas possible, rendez-vous compte comment on va faire ?» Et puis après, donc on a cette mission de leur communiquer, de leur facturer cet argent, de potentiellement ne pas se faire payer, d'avoir envoyé des rappels, ce qui est clairement désagréable dans une relation de confiance avec les patients. Et puis après, il faut aussi imaginer que toute une partie des personnes vont basculer dans le bénéfice de prestations complémentaires. Donc, c'est des coûts qui vont aussi se répercuter à un autre niveau, mais quand même des bourses cantonales.
Les infirmières indépendantes accueilleront les députés demain matin pour tenter de les convaincre de renoncer à cette hausse de participation au coût des soins. L'intégralité de la séance du Parlement est à suivre sur rfj.ch. Les questions orales seront diffusées en direct sur RFJ après 8h30. Le surendettement des jeunes jurassiens au centre d'une question écrite au Parlement. Le gouvernement a répondu aux interrogations d'Anaël Louvy. Le député PLR demandait des précisions sur la proportion de jeunes concernés par cette problématique, notamment en raison des impôts, de même que sur les mesures mises en place pour y faire face. Si le phénomène est bien réel, il est toutefois difficilement quantifiable, répond l'exécutif Léonie Adrevert.
Il n'existe pas de statistiques cantonales sur la proportion de jeunes de moins de 30 ans en situation de surendettement. L'exécutif s'appuie donc sur les chiffres de Caritas Jura qui établit chaque année un rapport d'activité du secteur social et dette. En 2023, le surendettement concernait ainsi environ 80 jeunes de moins de 30 ans. La part la plus importante des arriérés concerne les impôts et l'assurance maladie. Au niveau des impôts, justement, poursuit l'exécutif, 565 contribuables de moins de 30 ans ont au moins une poursuite en cours pour les montants dus entre 2017 et 2023. Ça représente une proportion d'environ 5,5%. Le même calcul, mais en incluant les contribuables de tous les âges, débouche sur un taux plus élevé. Pour ce qui est des mesures de lutte, le gouvernement souligne l'offre de formation de Caritas Jura. En outre, la commission de surendettement planche actuellement sur un projet de détection précoce. Il sera transmis aux services concernés au premier trimestre 2025.
À noter encore que le site du service des contributions dispose d'une page dédiée aux jeunes adultes avec des conseils et informations. Les sympathisants PCSI d'Ajoie s'unissent en vue des élections cantonales de 2025. Réunis vendredi dernier en assemblée à Grandfontaine, ils ont décidé de se rassembler sous une seule et même bannière, celle du PCSI du district de Porrentruy. Dans un communiqué transmis aujourd'hui, le nouveau comité indique que le destin de l'ensemble du district doit être défendu d'une seule et même voix, au-delà des petites querelles locales. Gladys Udry-Leschen prend la présidence du comité et Pascal Anzelin la vice-présidence. 3 assemblées communales au programme ce soir dans le Jura. Il sera notamment question du budget 2025. Basse Vandeline prévoit un déficit de plus de 122 000 francs. Les ayants droit voteront également les règlements d'approvisionnement en eau potable ainsi que d'évacuation et traitement des eaux. À Châtillon, le budget table sur un bénéfice de plus de 55 000 francs. L'Assemblée se prononcera aussi sur le règlement de gestion des eaux de surface qui déboucherait sur une nouvelle taxe. Enfin, à Murio, c'est un déficit de 145 000 francs qui est prévu au budget. Les citoyens se prononceront aussi sur différentes enveloppes d'investissement pour un total de 1,8 million de francs. Une vente de 10 mètres carrés de terrain au chemin de fer du Jura sera aussi soumise au vote. Tentative d'apaisement à Berlincourt au sujet de la géothermie profonde à Haute-Sorne. Une rencontre s'est tenue hier soir entre les habitants du lieu, l'Office cantonal de l'environnement et la commune fusionnée. Le dialogue s'est donc ouvert à Berlincourt où la mobilisation a été très forte à l'encontre du projet de géothermie profonde. Nicolas Meusy.
Berlincourt avait accueilli en 2023 quelques 1000 manifestants pour donner de la voix contre le projet et plusieurs panneaux à vendre avaient été accrochés sur des bâtiments du hameau. Depuis, la grogne n'a pas disparu. Alors pour essayer d'apaiser la situation, le canton a organisé une rencontre à laquelle une vingtaine de citoyens a pris part. La moitié de l'assistance a toutefois quitté la salle après avoir lu une lettre de mécontentement concernant des discussions qui interviennent trop tardivement, nous a indiqué le conseiller communal de Haute-Sorne en charge de l'énergie. Olivier Chèvre a ajouté que l'autre moitié est restée pour permettre des échanges constructifs. La séance a permis aux habitants restants de faire part de leurs doléances. Elle concerne notamment des nuisances sonores et lumineuses, ainsi que des gênes liées au trafic, précise Olivier Chèvre. Le canton et la commune de Haute-Sorne ont pris note du ressenti des habitants. Des discussions avec Géoénergie Suisse vont désormais intervenir afin d'apporter des solutions.
La fin d'importants travaux aux étangs de Bonfol, ce site d'importance nationale et même européenne, a souffert du temps qui passe, notamment au niveau de ses digues. L'Office de l'environnement a donc entrepris de solidifier le côté sud de l'étang du milieu. Lors des inondations de l'été 2021, il a été constaté que le bassin présentait des risques. Le responsable du domaine nature, Laurent Gognat.
Donc en 2021, on a vu qu'il y avait vraiment des soucis par rapport à cette digue, donc on a renforcé cette digue. Alors on amène tout simplement de la marne, on surélève la digue, on colmate les failles existantes. Et puis ce qui est important, c'est qu'on a mis en fait sur l'ensemble de ce linéaire un treillis pour éviter le travail des rats musqués, parce que le rat musqué est bien présent malheureusement ici, c'est une espèce invasive. Elle est capable de porter préjudice à ces digues en creusant des trous, des galeries. On a fait deux déversoirs préférentiels sur cette digue pour pouvoir permettre à l'eau de se déverser dans des endroits préférentiels avec des fosses de dissipation, ce qui permet effectivement d'éviter des crues sur la localité de Bonfol. Je me permets de dire qu'il y a une parfaite cohérence avec les travaux qui vont tantôt être engagés sur la commune de Basse-Vandeline pour la protection contre les crues sur la Vandeline.
Un autre chantier concerne les étangs des champs de Manche. L'Office de l'environnement y change les vannes de régulation. Le coût de l'ensemble des travaux est estimé à 300 000 francs, financé par le canton qui est propriétaire du site. Mais la Confédération va participer à hauteur de 65%. Des habitudes à changer pour les automobilistes prévotois et les visiteurs réguliers. Le passage sous la voie ferrée située rue de l'Est sera fermé pendant près d'un an en raison de travaux du 13 janvier au 13 décembre 2025. La municipalité de Moutier va profiter des travaux de remplacement du pont ferroviaire réalisé par les CFF pour abaisser la route communale. Plus aucun véhicule ne pourra emprunter le passage sous voie qui relie l'axe principal de la traversée de la ville au quartier situé de l'autre côté des voies où se trouve notamment le CEF Artisanat. Le Conseil des États adopte massivement la loi qui interdit le Hamas et les organisations qui lui servent de couverture. Il s'est prononcé en ce sens par 37 voix contre une aujourd'hui. Le massacre du 7 octobre 2023 en Israël est le déclencheur d'une mesure exceptionnelle en Suisse, appliquée jusqu'ici seulement à Al-Qaïda et à l'État islamique. Dans la foulée, le Conseil des États a voté une motion pour faire de même avec le Hezbollah. Le conseiller aux États UDC bernois Werner Salzmann justifie l'interdiction.
Le Hamas, c'est une organisation terroriste qui est financée par les terroristes d'Iran. Et puis, pour nous, c'est clair, une organisation comme ça, c'est pas compatible avec les règles de démocratie. Une autre chose, c'est la possibilité de le financement dans la Suisse. C'est interdit avec cette loi. Et c'est pourquoi c'était absolument nécessaire.
On doit faire la même chose avec le Hezbollah?
Oui, on doit encore bien regarder qu'est-ce que la différence entre les deux organisations. Mais je suis tout sûr. Ça, c'est aussi une organisation terroriste.
Vous êtes pour la neutralité. Est-ce qu'on n'a pas un problème quand on interdit des mouvements de ce genre?
Rien du tout. On n'a pas un problème avec une pays. Ce sont des organisations criminelles.
De son côté, le conseiller aux États socialistes genevois Carlos Omarouga, pro-palestinien, a été le seul opposant à l'interdiction du Hamas. Il s'en explique.
La Suisse, depuis toujours, a refusé de faire une liste des organisations terroristes pour laisser marge de manœuvre au Conseil fédéral, mais aussi aux organisations humanitaires qui sont sur le territoire suisse et qui sont engagées sur le terrain, et être en fait des vecteurs de dialogue, des vecteurs de paix. Et ici, on a eu deux propositions qui introduisent des interdictions et donc sont en rupture avec cette dynamique-là. Et ces interdictions sont là uniquement parce que ces organisations, qui ont naturellement une nature terroriste, se sont pris à Israël. Mais d'autres organisations, comme le THS en Syrie ou d'autres en Afrique, sont tout aussi violents et tout aussi cruels que le Hamas ou que le Hezbollah, mais on n'interdit pas. Et c'est cette deux poids et deux mesures et le fait que ça restreigne la capacité de mouvement du Conseil fédéral et des organisations humanitaires qui m'a amené à refuser.
Un dossier réalisé à Berne par Serge Jubin. L'interdiction du Hamas et du Hezbollah sera au programme du Conseil national demain. En Syrie, les rebelles islamistes instaurent un gouvernement transitoire. Ils ont annoncé aujourd'hui la nomination d'un de leurs responsables, Mohamed al-Bachir, pour le diriger. Cette déclaration survient deux jours après la chute du régime de Bachar al-Assad lors d'une offensive spectaculaire. La vie reprend son cours à Damas avec la réouverture des commerces. Pour beaucoup de Syriens, la priorité reste la quête de proches disparus, happés par des décennies de répression féroce. Un plaidoyer en faveur d'un contrat de méthode pour surmonter les lignes rouges. Le président français Emmanuel Macron a invité aujourd'hui les chefs des partis politiques, hors extrême droite et gauche radicale, à l'Élysée. Objectif des réunions, défricher la route pour lui permettre de nommer un Premier ministre et surtout d'éviter une censure. Emmanuel Macron souhaite une nomination dans les 48 heures pour la succession de Michel Barnier. Le Républicain a été contraint de démissionner jeudi dernier après un vote de censure historique à l'Assemblée nationale. Toujours en France, une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, a été requise aujourd'hui à l'encontre du réalisateur Christophe Rougia. L'homme est jugé à Paris pour des agressions sexuelles sur Adèle Haenel quand elle avait entre 12 et 14 ans. La procureure a demandé que la partie ferme de cette peine soit directement aménagée sous bracelet électronique, ce qui veut dire que Christophe Rougia n'irait pas en prison. L'audience doit se poursuivre avec les plaidoiries de la défense. La décision du tribunal sera ensuite mise en délibéré.
RFJ, il est 18h13.
Sport. Anthony Onka prolonge l'aventure au HC Ajoie. Le défenseur finlandais a signé un contrat pour 2 saisons supplémentaires à Porrentruy et s'est donc engagé jusqu'en 2027, selon une annonce faite aujourd'hui. Arrivé en cours de saison et prêté par la franchise NHL de Carolina, le jeune nordique de 24 ans s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du dispositif Ajoie en National League de hockey sur glace. En 18 matchs joués avec le HCA, Anthony Onka a réalisé 9 points. Sa prolongation est un très bon signal. Le commentaire de Michel Léoni.
Anthony Onka est un joueur au-dessus de la norme. Peu de défenseurs ont en Suisse une telle qualité de patinage, un tel maniement de canne et une telle vision du jeu. Et le jeune homme n'a que 24 ans. On ne va pas se le cacher, c'est un immense coup réalisé par le directeur sportif Julien Vauclair qui vient de prolonger un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Avec Onka, le visage du HCA a changé. Son jeu est devenu beaucoup plus fluide grâce aux qualités de relanceur du Finlandais. Quand il ne joue pas, tout devient plus compliqué. C'est donc un cadeau de Noël avant l'heure pour les supporters qui pourront encore compter sur un trio finlandais redoutable la saison prochaine puisque Turkulainen et Nettinen seront encore sous contrat.
Mauvaise nouvelle en revanche pour Noah Patnaud. Le gardien Ajoie, souvent prêté à Beslinzone cette saison, ne retrouvera pas la glace avant la fin de l'exercice. Le portier de 21 ans s'est blessé au bas du corps. Et puis du beau monde est attendu à Gstaad. Le Swiss Open de tennis accueillera notamment le numéro 2 mondial, l'Allemand Alexander Zverev. Le double vainqueur du tournoi, le Norvégien Casper Ruud, sera aussi de la partie, tout comme le Vaudois Stan Wawrinka. Le tournoi aura lieu en juillet sur la terre battue de l'Oberland bernois. Fin de ce journal. Merci de votre écoute. Très belle soirée.